Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bah, y a un challenge lié à la prise de risque, évidemment. Et puis, il y a aussi, moi, un truc qui m'intéressait, c'était de voir où est-ce que je peux emmener mon corps avec, et mon mental avec une adaptation progressive et raisonnée. J'ai pas de combinaison dont on sait pas quelle est l'épaisseur sur moi. On pourrait se dire, ouais, il a une combinaison de 8 mm, il sent rien, machin. Non, sans combinaison, dans de l'eau à 1 degré, c'est pur et dur, quoi. Voilà.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est donc avec Arthur. Salut Arthur.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va très bien, merci. Et toi ?
Ça va super.
Merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Arthur, j'ai découvert ton existence par l'intermédiaire de Chloé qui s'occupe en fait de
qui est ma chef d'expédition.
C'est ça, c'est
manager,
comme ça que ça s'appelle.
Chef d'expédition, voilà.
Chef d'expédition, t'appelles ça ?
Ouais, c'est un peu la chef d'orchestre de mes projets, donc... C'est celle sans qui rien ne serait possible.
Et Chloé, donc, qui travaille avec Marine Leleu, que moi j'avais rencontré par l'intermédiaire
aussi,
de Marine Leleu.
Si vous
voulez, si vous voulez aller écouter, j'avais fait un épisode d'Histoire de succès avec Marine également. Et en fait, je vois dans les stories de Chloé sur Instagram qu'elle est au beau milieu de nulle part. Alors je crois comprendre au bout d'un moment que c'est au Canada, que c'est enneigé de ouf. Et en fait, elle se retrouve avec des gars qui vont découper un trou dans un lac. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Et à un moment donné, je vois une sorte de grand gaillard sortir d'un truc en slip de bain et aller se foutre dans la flotte. Et je me dis, mais
c'était moi.
Qui est ce... Pourquoi faire ? Je me souviens d'ailleurs, je lui ai dit, mais pourquoi ? Que se passe-t-il ? Quel est le concept ? Et en fait, c'était toi.
C'était moi.
Qui était en train de tenter, enfin, en tout cas, de préparer une tentative de record quelques jours plus tard
d'apnée.
D'apnée, en fait.
C'est de l'apnée sportive.
C'est de l'apnée sportive où tu
Exactement.
Nages sous la flotte pendant un certain nombre de temps et donc de mètres, en fait. C'est ça, c'est compté en mètres.
C'est surtout la distance qui compte.
La distance.
Oui.
Où tu as fini par nager la distance de 105 mètres, c'est ça ?
105 mètres, exactement. Ouais.
Dans une flotte à 0,
bah, entre 0,3, 0,4 et 1 degré, 1 degré 5, ça dépend si on est plus ou moins près de la glace. Ouais.
Et en slip, donc en maillot
de bain. Demain, exactement.
Ok, on va reparler de tout ça parce que si j'ai bien compris, tu avais déjà fait un record aussi, mais en combi.
Oui, tout à fait, l'année dernière, en 2021, à la même époque, toujours avec accompagné d'ailleurs par Chloé. On a organisé ce premier record du monde d'apnée sous glace, donc en distance sous la glace, hein, ouais. À l'horizontale. Et cette fois, la première fois, du coup, c'était avec ma petite combi. Ouais.
Waouh! Et donc, tu vas m'expliquer pourquoi, à un moment donné, tu te dis, ok, la combi, c'était trop simple, on va maintenant y aller quasiment à poil, quoi. C'est assez fascinant. Et donc, t'as été plusieurs fois, on va en reparler, mais t'as été plusieurs fois champion du monde d'apnée. Tu détiens des records, des titres. Enfin, t'es l'un des apnéistes français les plus titrés, c'est ça ?
Exact, je crois, ouais.
Je crois.
Jusqu'à preuve du contraire.
Mais en fait, on va parler de toute ta carrière. J'aimerais bien savoir un peu, et la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Arthur, quand t'avais 7-8 ans ?
Quand j'avais 7-8 ans, C'est marrant que ça tombe sur cet âge-là, parce que c'est une période de ma vie qui était pas facile. J'ai perdu ma mère, en fait, à l'âge de 7-8 ans, à l'âge de 8 ans, qui est décédée d'un cancer. Cette période-là était pas la plus facile. Ça, c'est clair. On vivait avec mon père, avec ma petite sœur qui avait 4 ans de moins. On était orphelins de mère, en fait, ma sœur et moi, à cette époque-là. Et on vivait avec mon père entre la Corse, d'ailleurs, où j'ai d'ailleurs découvert pas mal mon acquaintance avec l'élément aquatique, on va dire, et Paris, où on vivait déjà avant le décès de ma mère, hein, on était en région parisienne. Donc voilà à quoi je ressemblais quand j'avais 7-8 ans. Après, au-delà de ça, je me souviens pas bien de tout. C'est difficile de dire à quoi je ressemblais et ce que je faisais quand j'avais 7-8 ans. Mais je pense que j'étais un gamin assez cool, in fine, assez sportif déjà. Assez éveillé et je pense que ça doit être je devais sûrement aussi avoir des défauts mais je m'en souviens pas.
J'imagine à quel point ça doit être dramatique de perdre sa mère à cet âge là
ouais.
Tu te souviens de comment tu vis ce drame, toi? Et je me demandais à quel point ça t'a construit en tant que, tu vois, qu'enfant, que jeune adulte, etc., plus tard, quoi, avec le recul. T'as 37 ans, ouais, aujourd'hui, ça.
Ouais, 37 ans. C'est un événement qui conditionne toute une vie, en fait. Hein. Donc, rien ne se serait passé de cette manière si jamais c'était pas arrivé, ça, c'est certain. Ça forge une certaine combativité, une certaine capacité de résilience, une certaine vision, je dirais aussi un peu spirituelle de la vie, tu vois, un peu mystifiée aussi. C'est un ce genre d'événement qui forge un caractère, quoi. Surtout quand ça arrive à cet âge-là, quoi. Tu vois, il y a vraiment un impact. Hein. Donc, c'est-à-dire que sur le moment, ça a été vécu de manière très difficile.
Euphémisme, j'imagine.
Ouais, voilà. Et puis, après, c'est quelque chose qu'on digère et qu'on accepte et puis qu'on fait le deuil, quoi. Donc voilà, mais oui, perdre un parent si jeune, c'est j'en connais, hein, des amis à moi qui ont vécu le même genre de drame. C'est jamais quelque chose. Enfin, c'est quelque chose de très difficile à gérer et qu'on garde à vie, quoi.
Exactement. T'as la sensation que ça te renvoie à la brièveté de la vie de façon un peu, enfin, très précoce, j'imagine, quoi.
Ouais, bien sûr, c'est. Ouais, ça donne une certaine vision. Moi, j'ai l'impression que ça m'a apporté beaucoup de sagesse et de maturité assez jeune, malgré le fait qu'on est. Enfin, je veux dire, je suis toujours un peu con, hein. Je l'ai toujours été. Mais j'ai l'impression d'avoir gagné une certaine sagesse, une certaine maturité. Assez jeune, en fait, par rapport à certaines choses. Par rapport à la vie, quoi, d'une manière générale, je crois. Ça impacte le développement psychique et ça donne une direction, en tout cas, ouais, c'est certain. Ouais.
Comment tu vis ton adolescence? Tu te souviens?
J'ai plus de souvenirs déjà. Adolescent, moi, en fait, du coup, j'ai toujours été un peu. J'ai toujours été un peu marginal, on va dire. Peut-être d'ailleurs lié à cet événement tragique, hein, je sais pas, mais j'ai toujours senti que j'étais un peu différent. Voilà. Il y a absolument aucune prétention là-dedans, hein, parce qu'au contraire, moi, j'avais envie d'être comme tout le monde, quoi. quand on est ado, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer dans le moule et d'être comme tout le monde, tu sais. Mais moi, j'étais pas du tout comme ça. Malgré moi, hein, j'avais le sentiment d'être vraiment différent et d'essayer de faire des efforts pour ressembler à tout le monde, d'ailleurs, justement, tu vois. Et je me souviens. Je faisais 4 têtes de plus que tout le monde dès l'âge de 11 ans.
Les gens le voient pas, mais t'es un grand gaillard qui fait presque 2 mètres, quoi.
Ouais, voilà. Surtout que j'ai poussé très vite au début.
Ouais.
Donc, à l'âge de 11, 12 ans, 13 ans. Je mesurais déjà pas loin d'un mètre 90, je crois. Donc,
c'est dur de passer.
Tu vois, j'étais aussi grand que les pions du collège, quoi, tu vois. Et donc, j'étais déjà un peu celui qu'on voit, quoi, tu vois. Mais c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait, quoi. Je te dis, hein, c'est pas du tout par prétention que je dis ça, quoi. Mmh. Il y avait vraiment, je trouvais aucune satisfaction personnelle dans tout ça, quoi.
Gens petits pensent toujours que, enfin petits, les gens normaux, on va dire, pensent toujours que c'est cool d'être grand.
Ouais.
Mais en fait, il y a plein d'aspects très négatifs.
Non, ouais. Et puis en plus, j'ai pas une scolarité super facile. J'avais du mal à l'école. J'étais assez tourmenté, quoi. Ais, mais puis tu sais, entre l'âge de 9 ans et l'âge de 16-17 ans, j'étais quand même pas mal troublé justement par la disparition de ma mère. Et du coup, j'étais un peu dans un refus de l'école. Enfin, c'était difficile, quoi. J'arrivais pas à me cadrer dans tout ça.
T'avais un suivi psy ou pas?
Ouais. Pas vraiment. Un petit peu, mais il n'y a pas eu vraiment de suivi sur du long terme. Bah déjà parce que on n'avait pas vraiment de repères géographiques parce qu'on bougeait tout le temps.
Okay.
On a eu vraiment beaucoup de déménagements. Et puis...
Il faisait quoi comme métier, ton père?
Mon père est architecte.
Okay.
Tu vois, donc il aime bien les maisons, quoi. Donc du coup, on change beaucoup de maisons.
Okay.
Et ça a des aspects cool parce que du coup, on voit du pays. Par contre, il y a des aspects moins cool, c'est que du coup, t'as pas de repères quand t'es gamin, quoi.
Dur de s'ancrer dans une bande.
Ça, c'est très difficile, ouais, de s'ancrer, de se faire des amis, de s'ancrer dans un milieu social, tu vois, un endroit. Donc, il y a vraiment eu des difficultés par rapport à ça. Et en plus de ça, j'ai pas eu une scolarité facile. C'est aussi que je suis tombé dans des collèges parfois qui étaient difficiles et où j'ai vraiment dû subir, me défendre, pas subir, parce que j'ai jamais vraiment subi, parce que je me suis toujours un peu, j'ai jamais courbé les chines, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es nouveau quelque part.
Tu faisais harceler?
Quand t'es nouveau quelque part, dans des collèges, j'ai notamment été dans des collèges en banlieue qui étaient pas forcément très faciles. Quand t'es nouveau, que tu mesures 1m90 à l'âge de 13 ans, que tu vis dans un pavillon, en banlieue, t'es catalogué comme le tout bab qui a du pognon. Et qui en plus de ça est grand, donc potentiellement qui peut avoir du succès auprès des filles, tu vois. Et donc du coup j'étais la cible à abattre, quoi. Et c'est con, hein, mais et d'ailleurs c'est con, mais souvent les enfants sont comme ça, hein. Enfin, les enfants aujourd'hui, quand je prends du recul par rapport à ça, j'en veux pas à ces gamins là, les enfants, les adolescents sont bêtes et méchants, quoi. Et j'étais la cible à abattre, clairement. Donc il a fallu que je me défende
physiquement,
bien sûr, ouais.
Parce qu'on pourrait croire que quand tu faisais, j'imagine que tu faisais une tête ou deux de plus que ces gamins, quoi, tu vois, que...
Ah oui, mais ça, c'est quand t'es en sixième, les gars qui sont en troisième ont aucun remords à te tu vois, enfin, j'arrive pas de
à te goumer,
y a pas de distinction, quoi. Donc non, j'ai
okay.
Ouais, il a fallu que je me que je me défende et que j'essaie et que je m'endurcisse surtout. Et du coup, ça forge aussi, ça rajoute.
Oui, j'allais dire.
Tu vois ce que je veux dire, ça rajoute au
gros parcours de vie.
ça rajoute en fait de la capacité à gérer les les événements difficiles, quoi, tu vois. Et ça marque aussi, hein. C'est tout ça, c'est un parcours de vie quand même assez difficile qui fait que aujourd'hui il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi, je dois aussi, tu vois, réussir à faire face à des, plus des angoisses, mais parce qu'avant j'avais des angoisses, mais maintenant j'ai réussi à les gérer, mais ouais, à des, un parcours de vie tourmenté qui amène à certaines réflexions, quoi, tu vois.
Qui t'amène à aller nager sous la glace en slip.
Voilà, ouais. Bon, alors ça, oui, après, c'est un concours de circonstances qui a fait que j'en suis venu à découvrir l'apnée et puis que je me suis accompli là-dedans. Mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, il y a un parcours de vie qui est pas forcément évident et qui forge un caractère, une personnalité avec ses qualités et ses défauts d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, voilà, qui a forgé qui je suis aujourd'hui et ce qui me permet, j'en suis persuadé, d'aller très très loin en apnée. Voilà, et d'avoir la force mentale que ça exige, quoi. Ça, c'est certain. Force mentale que j'ai d'ailleurs sûrement pas dans d'autres domaines. Hein, mais en tout cas, dans le domaine de l'apnée, j'arrive à me dépasser dans ce type d'exercice. Ouais.
Ah, tu veux dire que tu as la sensation que les aptitudes mentales que tu as développées par ton sport, tu as parfois du mal à les mettre en exercice dans ta vie ?
Ah, mais ça, c'est comme dans tout. C'est-à-dire que si tu es très très fort pour grimper en haut de l'Everest, si ça se trouve, t'es une fiotte quand il s'agit de protéger ta gonzesse dans le RER ou dans le métro, quoi, tu vois. Mais ça n'a rien à voir.
Ok.
Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a, on excelle pas forcément dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il faut, et par contre, on peut s'entraîner dans tous les domaines pour se perfectionner et réussir à être à peu près homogène. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire. Mais en tout cas, là où je suis le meilleur, c'est sûr que c'est dans la, jusqu'à maintenant, c'est dans l'apnée. Ouais, ça, c'est sûr. Ce qui veut pas dire que je défends pas ma gonzesse dans le métro, au contraire. Hein.
Tu pourrais.
Mais je prenais ça comme exemple. Mais tu vois.
Tu peux aussi avoir une gonzesse qui est capable de péter des genoux, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, c'est pas loin d'être le cas. Mais tu vois, par exemple, j'ai beaucoup plus de mal à supporter les transports en commun, à supporter le monde, les embouteillages, que j'ai dû supporter d'ailleurs pendant longtemps quand j'étais chauffeur de maître à Paris, mais j'ai beaucoup plus de mal à supporter ce genre de choses, tu vois, et c'est d'ailleurs un truc sur lequel il faut que je travaille. J'avais beaucoup plus de mal, par exemple, à m'exprimer en public aussi à une certaine période. Alors j'ai pas mal travaillé dessus, donc ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais tu vois, voilà, c'est pas parce que t'as la faculté de te dépasser mentalement dans un domaine que forcément c'est pareil dans tous les domaines.
Ouais,
faut s'entraîner, quoi.
Je comprends. Tu fais des études d'ingé son, c'est ça ?
J'ai fait des études d'ingé son, ouais, j'ai fait l'ESRA à Paris.
Qu'est-ce qui t'a incité à te lancer dans le milieu de l'ingé son ?
Moi, là-bas, je jouais de la guitare et je chantais, et c'était vraiment ça que j'adorais faire. Et donc, moi, quand j'étais ado, pour moi, j'allais finir guitariste-chanteur, enfin, je veux dire...
Ça te rajoutait des points dans le mec, il est beau gosse et il va tomber toutes les mains.
Ah ouais, il joue de la guitare, ouais.
Il joue de la guitare et il chante.
Je sais pas, ouais, mais j'adore ça, quoi. Donc c'est. Désolé, hein, mais. J'adore jouer de la guitare, j'adore chanter. Et c'est vrai que aujourd'hui encore.
Tu fais toujours aujourd'hui ?
Ouais, aujourd'hui encore, je pense que c'est même quelque chose que je préfère à l'apnée, tu vois. L'apnée, pour moi, c'est en fait. Pour moi, c'est une hygiène de vie, en fait. Voilà. Pour moi, l'apnée, c'est clairement une hygiène de vie. Et c'est certes une passion, mais c'est surtout une hygiène de vie. C'est-à-dire que pour moi, je vis plus passionnément mon intérêt pour la musique, et d'ailleurs pour le chant et la guitare, que l'apnée.
C'est pas parce que t'as fait de l'apnée ton métier ?
Non, non, même pas, non, non.
Okay.
Non, non, c'est vraiment...
C'est parfois les gens ont du mal à s'investir dans une passion, parce que tu dis que l'apnée est ta passion, tu vois, et que t'as fini par en faire ton métier.
Ouais.
Et qu'il y a peut-être un truc où...
Non, non, non.
Tu vois.
Non, 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 c'est vraiment... que je me retrouve plus là-dedans que... Enfin, c'est difficile, parce que en même temps, je pratique pas, donc... je suis bien moins bon en guitare et en chant que je le suis en apnée. Mmh. Tu vois,
t'es pas le champion du monde de guitare et de chant.
Non, ouais, il faudrait que je travaille un peu. Mais il y a un potentiel, hein. Je dis pas le contraire, mais il faudrait vraiment que je l'exploite, quoi. Et mais je dirais que je sais pas, non, ça m'intéresse plus en tout cas que l'apnée, même si l'apnée m'intéresse énormément et que j'en vis et que je partage cette passion et que j'en parle et que je fais des conférences sur le sujet et qu'on m'interviewe pour ça, etc. Donc c'est mon métier, hein, attention, mais je pense que à terme j'aimerais bien réussir à voilà développer aussi cet aspect création artistique ou expression artistique du moins. Que ça passe d'ailleurs par la guitare chant ou par autre chose, hein, mais il y a vraiment cet aspect très ancré en moi qui fait que je suis pas simplement un apnéiste, tu vois, et beaucoup de mes collègues sont d'ailleurs simplement apnéistes, et moi je porte vraiment un point d'honneur à ça, c'est-à-dire que je ne suis pas qu'apnéiste, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je suis un enfant, je suis un pur produit parigot, j'ai grandi ici toute ma vie, quoi, tu vois. Je suis un enfant de la balle, ma mère était comédienne. Tu vois, j'ai toujours été un peu punk, tu vois. Voilà, moi, mais je passais mes journées à dos, la guitare sur le dos. Tu vois, j'avais des dreadlocks. Enfin bon, j'étais pas du tout parti pour être champion d'apnée, quoi.
Oui, on en reparlera, mais t'as découvert l'apnée beaucoup plus tard dans ta vie.
Ouais.
Quoi.
Donc en fait, alors tu vois, je dis pas que tous les apnéistes sont que apnéistes. Tu vois, par exemple, mon camarade Guillaume Néry vient d'écrire un bouquin là qui a l'air fascinant. Donc on a tout. Enfin, beaucoup d'entre eux ont d'autres cordes à leur arc, je dirais. Mais il y en a certains, voilà, qui sont purement et simplement apnéistes et rien d'autre, quoi. Voilà, et ce qui est très bien, hein, d'ailleurs, hein, j'en mets pas ça en question, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai autre chose. Voilà, il n'y a pas que l'apnée. J'ai aussi une vision artistique de la vie et de mon potentiel. Voilà, je sais que j'ai le potentiel. Au moins, je pense que c'est difficile de se déclarer artiste, mais au moins d'essayer de m'exprimer à travers certaines choses, quoi. Voilà.
Je vais faire une petite parenthèse création de contenu parce que je t'entendais dire dans une interview que aujourd'hui, quand t'es apnéiste, t'arrives pas à vivre aujourd'hui de ton sport. En fait, c'est un vrai sujet. En tout cas, de la pratique de ton sport unique, et donc l'un des trucs que vous êtes amené à faire en tant qu'apnéiste, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Guillaume Néry s'est fait connaître. Moi, à l'époque, je l'avais vu dans cette fameuse vidéo sur la musique d'Archive, là où il plonge dans
Free Fall.
Voilà, où il plonge dans ce trou immense. Et effectivement, vous êtes amené à devenir et à être des créateurs de contenu, et donc finalement des vidéastes et des cinéastes, et devenir poster des toi-même t'en fais, quoi. Et ça fait partie de votre job, quoi, limite, aujourd'hui.
Ouais. Aujourd'hui, enfin, moi, je sais que le passage d'apnéiste loisir au statut d'apnéiste professionnel, en fait, m'a forcé à devenir communicant, producteur, tu vois, producteur de contenu, du coup, apprendre les codes de la communication, conférencier. Savoir, je sais pas, monter des dossiers, organiser des événements,
passer sur des plateaux de télé,
s'exprimer en public, voilà, et en fait c'est multicasquette, ouais, bien sûr.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne gagne pas sa vie grâce à la compétition en apnée. Et d'ailleurs, en fait, un apnéiste professionnel, c'est un apnéiste qui arrête d'être apnéiste et qui brode autour de ce sport pour essayer d'en faire quelque chose, parce qu'en fait on n'est pas rémunéré par la compétition, étant donné qu'il n'y a pas de régie publicitaire sur les compétitions, que les compétitions ne sont pas diffusées en télévision, et bah du coup on n'a pas de budget, donc les clubs ne rémunèrent pas les athlètes, la Fédé ne rémunère pas les athlètes, et donc il n'y a pas d'argent à gagner quand on gagne des compétitions. Donc en fait, il faut se rapprocher de marques qui parce qu'en fait l'avantage qu'on a, c'est que ce sport fait rêver les gens.
Ouais.
Donc à partir de là, il faut capitaliser là-dessus, c'est-à-dire que l'apnée fascine le public, fait rêver le public, et donc l'apnée fait rêver et fascine les médias, hein, aussi, parce qu'il y a vraiment une magie derrière ce sport qu'on a la chance d'avoir, que n'ont pas d'autres sports, malheureusement pour eux, mais comme, je sais pas, le tir à l'arc, l'escalade, la pétanque, voilà. Et donc
c'est vrai qu'il y a moyen de faire des images de ouf aujourd'hui, de façon...
Alors, ça passe pas que par les images, ça passe par le sport en lui-même qui fascine les gens. C'est comment on fait, pourquoi, on veut tout savoir, explique-nous. Tu vois, il y a déjà une magie sur l'aspect, je dirais, purement théorique, quoi, de la pratique de l'apnée, quoi. Comment, oui, ça marche, quoi, tu vois. Et il y a un intérêt réel du public.
Arrêter de respirer, quel est l'intérêt?
Voilà. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait, comment vous faites pour aller aussi profond, pour retenir votre respiration aussi longtemps. Voilà. Donc il y a déjà un intérêt là-dessus. Après, en plus de ça, évidemment, il y a un potentiel de communication énorme d'un point de vue visuel. C'est-à-dire que tu fous un apnéiste dans le Grand Bleu avec un cachalot à côté, tu prends 2-3 jolies photos, ça fait un buzz interplanétaire. Enfin, tu vois, il y a... Et en fait, ça, les médias sont en train de s'en rendre compte, mais les marques sont aussi en train de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de marques qui comprennent que les apnéistes, s'ils arrivent à faire du contenu sympa, sont des leviers de communication énormes pour leur produit, quoi, tu vois. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois un apnéiste avec un logo sur sa combi, tu le fous dans l'eau avec un grand requin blanc à côté, et jackpot, quoi. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, on a cette chance là c'est qu'il y a un potentiel de communication énorme, et en plus de ça, bien sûr, dans le discours qu'on va avoir, parce que tout ce qui est parce qu'en déjà c'est un sport esthétique, mais en plus de ça, tout ce qui est fusion avec l'élément, avec l'environnement, respect de l'environnement, dépassement de soi, gestion de la prise de risque, tu vois, tous ces topics qui plaisent énormément aux marques, et qui fait qu'en fait on peut vraiment avoir une activité de conférencier à plein temps quasiment, si on s'y met vraiment. Et ça, pareil, on a beaucoup de chance par rapport à ça. Donc en fait, le métier d'apnéiste professionnel, c'est un apnéiste qui arrête la compétition et qui se dirige vers ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est ce que mon camarade Guillaume Néry a fait, c'est ce que fait Morgan Bourkis aussi en ce moment, c'est ce que je fais plus ou moins, même si j'ai encore ce genre de tentative de record, ouais, isolé sur lesquels je me suis mis, mais c'est vrai que j'ai arrêté la compétition au sens traditionnel du terme, dans les disciplines d'apnée plus conventionnelles que je faisais avant, et pour justement développer mon réseau de conférences, développer les projets de communication que je veux mettre en place avec mes partenaires. Et voilà, en fait, c'est vraiment ça. À un moment, je me suis dit, bah voilà, je veux devenir apnéiste pro, donc bah il faut que j'arrête la compétition et que je capitalise sur mes titres et mes records. Justement, j'avais déjà 5 titres de champion du monde et 6 records du monde à l'époque, et donc je me suis dit, ok, j'ai cette légitimité. Maintenant, je vais essayer de bâtir dessus pour justement approcher des partenaires, développer un réseau, enfin développer mon activité de conférencier, etc. Mais tu peux pas, si tu veux, arrêter de faire de l'apnée et partir essayer de faire tout ça si t'as rien. Oui. Il faut quand même se faire une base de titres ou de records pour avoir la légitimité pour pouvoir développer tout ça, évidemment.
C'est quand même ouf parce que t'es en train de dire que tu récoltes les fruits, en tout cas financiers, de ta carrière d'apnéiste une fois que, en fait, ta carrière est terminée, quoi. Enfin, ta carrière. C'est quand même fou, ça va à l'encontre de tellement d'autres sportifs qui, en fait, construisent eux aussi leur réputation et, tu vois, leur salaire, etc. Enfin, je pense à des sports beaucoup plus populaires, tu vois.
Ouais. C'est comme ça. C'est okay. Il nous faut il faudrait que nos compétitions soient diffusées
sur TF1,
en télévision, et qu'on ait des gros sponsors sur nos compétitions, et puis là, ça irait beaucoup mieux.
En plus, on va en parler, mais l'apnée s'est quand même fait connaître par l'intermédiaire du Grand Bleu, et je crois que c'est aussi comme ça que tu as découvert le truc. Moi, je me souviens, j'ai 44 mois, tu vois, donc j'ai vu le truc quand c'est sorti au cinéma sur grand écran, tu vois, j'ai l'impression d'être sous la flotte, quoi, tu vois. Qui n'a pas envie d'aller plonger dans sa piscine et de retenir sa respiration sortant du Grand Bleu, quoi, c'est vraiment. Et ça a été toi aussi un choc, c'est ça, quand tu le découvres à l'époque ?
Ouais, bah moi j'étais jeune, hein. J'avais 4 ans quand il est sorti, donc je l'ai vu à l'âge de 10-12 ans, je pense. Mmh. Et ouais, bah c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Justement, cet esprit, le personnage principal qui est incarné par Jean-Marc Barr, donc le personnage de Mayol, qui est assez détaché de la réalité, assez poétique.
Ça t'a parlé.
Ouais, je me retrouvais un peu là-dedans, et puis tu vois, le personnage d'ailleurs perd sa mère se barre assez jeune, je crois, quand il est tout jeune. Ouais. Tu vois, il perd son père, machin. Donc je me suis retrouvé un petit peu dans ce personnage, et l'endroit en fait où il se retrouvait bien, lui, c'était sous l'eau, quoi, tu vois. Et c'est vrai que sous l'eau, moi je fais pas forcément le rapprochement avec moi directement, mais quand on est sous l'eau, mais tout le monde, hein, d'une manière générale, on est vraiment dans une bulle, quoi. Quand on est en apnée sous l'eau, il se passe quelque chose, quoi. On est dans une bulle sensorielle, en fait, hein, donc on est coupé du monde, en apesanteur, dans le silence, et le cerveau lui-même d'ailleurs passe dans un mode particulier, et qu'on le veuille ou non, malgré nous, hein, le cerveau passe en mode apnée, et ça c'est très intéressant. On en reparlera après si tu veux. Mais du coup, je me suis retrouvé un petit peu dans ce personnage, et c'est vrai que moi j'adorais Besson, hein, j'ai commencé à être très très cinéphile dans ces années-là, hein, à l'âge de 11, 12, 13 ans.
Et quoi, il y avait le cinquième élément aussi à l'époque, peut-être
déjà. Ouais, cinquième élément, je me demande s'il n'est pas sorti un chouille plus tard. Mais le cinquième élément, pour moi, c'est le dernier Besson qui était digne de ce nom. Après, j'ai beaucoup moins accroché. Jeanne d'Arc, encore un peu, mais c'était vraiment le dernier, quoi. Après, j'ai beaucoup moins aimé. Mais tout ce qui a existé jusqu'à Jeanne d'Arc, pour moi, c'est des purs chefs-d'œuvre. Et que ce soit Nikita, Léon, le Grand Bleu, le cinquième élément, tout ça, je suis absolument client. Et du coup, c'était aussi en tant que amateur de Besson, du coup, tu vois, que j'ai vu le Grand Bleu. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, il est resté dans mon esprit, parce qu'il y avait cette histoire, ce rapport à l'élément aquatique, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me correspondait là-dedans, quoi. Donc c'est en partie ce qui m'a poussé à commencer à faire des essais, moi tout seul, à l'adolescence, tu vois, quand j'étais en vacances en mer, à commencer à essayer de descendre, et puis à voir un petit peu comment ça, si j'y arrivais. Et puis je me suis rendu compte que j'y arrivais pas trop mal, donc, mais ça me faisait même un peu flipper à l'époque. Je me disais, putain, mais je suis tout seul à faire ça, est-ce que c'est un peu dangereux ou pas, je sais pas. J'arrivais à descendre à 15-20 mètres, tu vois, en mer comme ça, je me disais, bon, c'est peut-être dangereux, je flippais un peu. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup là-dedans. Et après, c'est venu beaucoup plus tard, à l'âge de 26 ans, après mes études. Ouais.
C'est quoi le pont, en fait, entre tes études d'ingé son, est-ce que tu finis par faire à bosser en tant qu'ingé son à un moment donné dans ta vie, ou...
À l'issue de mes études d'ingé son, je me suis rendu compte, mais bon, c'était évident, hein, qu'en fait, j'avais pas envie d'être au service des musiciens, mais que j'avais envie d'être musicien, quoi. Donc en fait, quand t'es là pour organiser un setup pour enregistrer un musicien, que tu fais tout pour que ce soit nickel, tu lui branches son micro, tu lui prépares sa guitare, clac clac, tu vas tester le son, tu fais tes bidouilles, t'as derrière dans le studio, sur ta table, etc., que tu règles tes préamplis, machin et tout. Et ben en fait, je me suis rendu compte qu'en fait c'était être au service de gens à la place de qui j'aurais aimé être, quoi, tu vois.
T'avais plutôt envie d'aller chanter toi dans le micro.
Ouais, bien sûr. Donc c'était, enfin, il y avait quelque chose de trop frustrant là-dedans, qui était c'était, voilà, j'allais un peu à contresens, quoi. Donc je me suis vite rendu compte que je pourrais pas faire ce métier-là. J'ai quand même fait mes petites expériences, tu vois, j'étais en radio à Nova d'ailleurs quelques temps, j'ai fait un peu de studio, voilà, j'ai un peu touché à deux trois trucs et puis ouais, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas possible. Du coup, je me suis mis à travailler dans l'hôtellerie. J'étais chauffeur de maître, ouais. Dans les palaces,
wow.
Notamment à l'hôtel de Crillon, avec qui je collabore aujourd'hui. C'est marrant, ouais, avec qui je fais un petit partenariat là, voilà. Donc c'est marrant. Bah en fait, c'est parce qu'ils ont adoré l'histoire, l'espèce de success story. C'est pour ça ils ont voulu qu'on fasse ce petit partenariat ensemble.
Ah, donc tu passais ta journée dans les bouchons.
Ouais, j'étais chauffeur de maître, on appelle ça comme ça, ou chauffeur de grande remise, qui est un métier très respectable, qui est un métier à l'origine français, de tradition, avec des chauffeurs éduqués, formés, bilingues, qui présentent bien, évidemment. Ça n'a rien à voir avec Uber, quoi.
Voilà. Oui.
C'est juste ça que je veux dire. C'est vraiment un métier de tradition qui est hérité de l'époque des fiacres.
J'ai compris le sous-texte.
Non, mais voilà, ouais. C'est vraiment hérité de l'époque de l'opéra, quoi. Des fiacres, tu vois, où il y a vraiment un métier de tradition. Et qui, aujourd'hui, se pratique dans les palaces. Enfin, c'est les palaces, en fait, qui font appel à ces chauffeurs-là. Qui, d'ailleurs, est un métier qui est gravement mis en péril, justement, par l'apparition d'Uber et compagnie. Dont l'activité s'est effondrée depuis 3-4 ans là. Mais qui à la base voilà est un métier assez respectable en fait d'hôtellerie, un métier de service hein, bien sûr, mais qui reste très difficile parce que voilà, c'est un métier de service comme j'ai dit, et puis c'est aussi c'est vraiment un boulot de concierge presque, c'est-à-dire que on conseille les clients, on passe les réservations, on est à disposition quoi qu'il arrive à n'importe quel moment, puis c'est vraiment un métier de service 5 étoiles, donc ça peut être assez fatigant. Et en plus de ça, bien sûr, on conduit toute la journée dans Paris. À la base, j'ai fait ça, c'était pour allier le fait d'avoir un job alimentaire à ma passion pour l'automobile.
Ok.
Tu vois, donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas faire ça? Plutôt que serveur, tu vois, ou je sais pas, ou autre chose, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ce métier de chauffeur de maître. Ouais. Et au fait, j'ai fait ça pendant quelques années, du coup. Beaucoup à l'hôtel de Crillon.
Ouais.
Voilà. Et puis à un moment, je me suis dit, allez, tentons l'aventure professionnelle dans l'apnée, parce que donc je faisais déjà de l'apnée quand j'étais chauffeur, hein, bien sûr. Et à un moment, je me suis dit, allez, c'est mon 5e titre de champion du monde, je vais la tenter.
Ah, donc tu continues à être, t'étais chauffeur pendant tes titres.
Ouais, bien sûr. Bah, on n'a pas de salaire. Hein, ouais, il fallait bosser.
Comment tu découvres l'apnée, tu disais vers 26 ans, donc finalement un peu tard. 2010, ouais. C'est ça?
Ouais, 2011, ouais.
Donc 2011, en fait, entre 2011 et 2015, tu découvres le truc genre en 2011 et en 2015, t'as déjà engrangé des titres, quoi.
2013, premier titre de champion du monde, ouais. Et entre 2013 et 2016, j'ai accumulé 5 titres. Ouais.
Donc en gros, en 5 ans de temps, t'es arrivé au top niveau, quoi.
Ouais, ouais.
C'est fou, quoi.
J'étais numéro 1 mondial, effectivement, en 2016.
Comment t'en viens j'imagine, à te mettre à un moment donné à l'apnée, où tu te dis, bah, peut-être c'est cool et ça peut être un loisir sympa, jusqu'à te dire, ok, bah, ça, il y a moyen d'atteindre le top niveau, quoi. C'est quoi le pont? C'est que t'es bon, j'imagine, déjà pour commencer. Bon.
Bah, ça a commencé par une année d'apnée découverte, d'apnée loisir, ce que font 90% des licenciés en France, hein, c'est-à-dire un sport très agréable, très sympa, aux multiples vertus, accessible à tous, vraiment. Hein. Et d'ailleurs, sport très tendance, hein, sport très à la mode, sport bien-être. Voilà, qui n'est plus réservé du tout à une élite de plongeurs aguerris, mais qui est vraiment ouvert à monsieur et madame tout le monde, Voilà, donc aujourd'hui, tous les clubs d'apnée en France sont saturés de demandes. Il y a des listes d'attente très longues avant de pouvoir rentrer. Et c'est un sport qui fait vraiment fureur. C'est-à-dire que on en parle maintenant dans les magazines bien-être. Tu vois, t'as un truc sur le tai chi, un truc sur le yoga, et maintenant t'as un truc sur l'apnée. Tu vois, ça fait partie de ce genre d'activité, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est très efficace. Et donc en fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vraiment, je me suis dit, j'avais terminé mes études d'ingénieur du son. J'étais dans ce métier de chauffeur de maître, et j'étais dans Paris. J'avais cette vie citadine. J'étais assez fêtard, très bohème, nos futurs. Franchement, j'étais au jour le jour. Et puis je me suis dit, il faut vraiment que je me recadre dans quelque chose à un moment, quoi. Il faut que je donne un cadre à mon quotidien. Un peu, tu sais, comme les jeunes qui savent pas quoi foutre et qui partent à l'armée, quoi. Et c'est exactement ça. Et en fait, l'apnée, ça a été mon armée à moi, quoi. Tu vois, ça a été ce qui m'a donné un cadre. À la base, c'était pour ça que j'y allais. J'ai pas tout de suite trouvé un club d'apnée. À la base, je me suis dit, il faut que je me remette au sport, c'est le sport qui va me cadrer. Donc je me suis mis à chercher un club de natation parce que je voulais nager et tout, me remettre vraiment à fond dans le sport. Et en cherchant un club de natation, je me suis dit, mais putain, j'adore l'apnée. C'est un truc qui me trotte dans la tête comme ça depuis mon enfance. J'ai l'impression que c'est un sport qui fait du bien. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a des clubs d'apnée? Et je savais même pas, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, il y avait plus, comme je te dis, il y a plus une piscine municipale à Paris où il y a pas un club d'apnée, quoi. Et donc, j'ai appelé les clubs les uns après les autres, et le premier où il restait une place, j'y suis allé. Et c'était Apnée Passion à Montreuil, qui est d'ailleurs un des plus grands clubs de France. J'ai fait mon baptême là-bas en 2011, et donc j'ai fait une première année d'apnée découverte, c'est ce que je te disais. Où là, donc, j'ai fait de l'apnée loisir, d'apnée plaisir, comme on dit, comme tout le monde. Et puis, à la fin de cette première année d'apnée découverte, je m'amusais déjà à envoyer des petites distances un peu sympas, tu vois, c'est-à-dire au-delà de 75 mètres, on va dire. Et là, les gens qui m'encadraient m'ont dit un jour, écoute, est-ce que ça te dit pas d'essayer de passer dans ce qu'on appelle la ligne compétition, c'est-à-dire dans les clubs d'apnée en général, t'as apnée piscine, je parle d'apnée piscine, t'as toujours 5 ou 6 lignes. Et puis, t'as toujours une ligne d'eau qui est réservée aux gens qui s'entraînent pour faire de la compétition. Donc, et là, j'ai accepté, bien sûr. Et la deuxième année, j'ai commencé à m'entraîner dans la ligne compétition. Et je suis rentré dans autre chose qui n'a rien à voir. C'est l'apnée compétition. Il y a un monde entre l'apnée loisir et l'apnée compétition. C'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir.
C'est quoi la différence? Alors, déjà, on peut expliquer que toi, tu fais vraiment de l'apnée dynamique, c'est-à-dire que tu nages. C'est
alors, il y a de l'apnée statique, effectivement, oui, où on bouge pas. Il y a l'apnée profonde en mer où on descend, donc ça j'en fais dès que je peux parce que c'est un truc que j'adore. Et puis il y a l'apnée en distance, voilà, où on fait de l'apnée.
Donc là t'es juste en surface et tu...
On est sous l'eau quand même.
Oui.
On est sous l'eau, on est à 1m50 sous l'eau et puis on fait de la distance avec monopalme ou à la brasse ou en bipalme même. Donc voilà, ça c'est pour les différentes disciplines parce que en gros, la majorité des pratiquants pratiquent en piscine. Hein. Faut le savoir. Tout le monde n'habite pas entre Nice et Perpignan.
Oui, c'est sûr.
D'accord. Donc en fait, la majorité, l'extrême majorité des licenciés apnée en France pratiquent en bassin. Voilà, faut le savoir. Que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, tu vois, voilà, c'est tous les gens. La grande majorité des licenciés sont en bassin. Et donc moi à Paris je me suis inscrit dans ce club comme ça et donc là j'ai commencé l'apnée compétition et en fait la grosse différence entre les deux, oui, pour répondre à ta question, c'est en fait que c'est comme si tu fais un footing le dimanche avec les copains dans le bois de Vincennes et puis à un moment tu te dis tiens je vais faire le marathon des sables, quoi, voilà. Et puis ça n'a rien à voir, c'est deux sports différents où c'est la balade champêtre en vallée de Chevreuse. Et puis d'un coup, tu te dis, allez, je vais faire le K2 au Pakistan, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est exactement pareil. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Et en fait, c'est pareil dans l'apnée. C'est-à-dire que quand tu passes en apnée compétition, T'es plus du tout dans une notion de plaisir. Mais c'est pareil, hein, quand tu montes en haut du K2, t'as aucune notion de plaisir. Hein. Le plaisir, il est après, quand t'as réussi. Et ben, dans la pneu compétition, c'est pareil. Et c'est pareil quand tu vas courir dans le désert. Hein, tu fais ton marathon des sables. Hein. Il y a aucun plaisir. Par contre, quand t'as fini, c'est genre waouh. C'est un truc dont tu te souviendras toute ta vie, quoi. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une notion de plaisir. En fait, on est dans une notion de sport de haut niveau. Et où en fait le but est de réussir à sortir le plus possible de sa zone de confort pour aller le plus loin possible et faire la plus belle perf possible sans dépasser les limites bien sûr physiologiques. Donc c'est ça, et ça n'a rien à voir avec l'apnée loisir où on reste relativement dans sa zone de confort, on est là pour profiter de la pesanteur, de la glisse, tu vois, du silence, etc.
Et alors c'est quoi la diff en fait quand tu dis de dépasser tes limites, ça consiste en quoi en fait? Ça consiste vraiment par rapport à tes propres capacités physiologiques, c'est ça? Et puis mentales aussi, j'imagine.
Alors avant mental, ouais. Avant tout, parce avant tout. Que l'envie de respirer, qui représente la première barrière mentale, on va dire, arrive bien avant du besoin de respirer, qui représente la barrière physiologique dont tu viens de parler. La barrière physiologique dont tu parles, c'est le besoin de respirer. C'est celle-là qu'il faut éviter de dépasser.
Oui.
Mais la première barrière qui s'impose à nous, c'est la barrière mentale, qui est caractérisée par l'envie de respirer.
Ton cerveau qui te dit, maintenant il faut y aller, quoi.
L'envie de respirer, et le cerveau qui réagit à cette envie de respirer. L'envie de respirer, elle arrive, ça c'est chimique, hein, t'as des capteurs au niveau cérébral qui réagissent au CO2. Et quand le CO2 commence à s'accumuler, bah, d'un coup... T'as les capteurs qui déclenchent l'envie de respirer, et puis bah t'as envie de respirer. Et ça mentalement déjà, voilà, là il y a une première barrière, c'est-à-dire que c'est quand même un truc qui est assez dur à dépasser.
Comment tu fais ça? C'est un...
Après ça s'apprend, voilà, bah okay. Ça c'est un truc qui s'apprend. Au début t'as l'impression que c'est insurmontable, et puis petit à petit bah t'apprends à rester dans le relâchement, t'apprends à t'économiser, et puis à rester zen, et puis à accepter cette gêne, cet inconfort, et puis à aller de plus en plus loin dedans, et puis la fois d'après tu rajoutes 10 secondes, puis la fois d'après tu rajoutes encore 10, puis la fois d'après tu te sens particulièrement bien, tu rajoutes 20 ou 30 secondes, ou 10 ou 15 mètres, ça dépend ce que tu fais, en profondeur ou en distance, enfin tu vois, voilà. Enfin pas en profondeur d'ailleurs, parce que c'est un process de progression qui est différent, où il faut y aller mètre par mètre, même si on se sent bien, donc j'irai pas en profondeur justement, mais en tout cas en dynamique, en bassin et en apnée statique, oui tu peux... Voilà, c'est comme ça que tu progresses, tu vois. Et d'un coup, tu rajoutes, voilà, à chaque fois, tu rajoutes un peu. Et en fait, c'est comme ça que tu apprends à dépasser l'envie de respirer. C'est petit à petit, sur la durée, voilà. Et puis en plus de ça, on est tous très très différents par rapport à ça. Il y a des gens qui l'acceptent beaucoup mieux que d'autres, qui arrivent à supporter ça beaucoup plus facilement. Il y a des gens qui ont envie de respirer beaucoup plus tard que d'autres. Ça dépend du métabolisme, de plein de choses. Donc on est tous très très différents, et chaque apnéiste est vraiment unique par rapport à ses sensations et par rapport à la manière dont il va les gérer mentalement. Voilà.
Et toi, j'imagine que en débutant comme ça, tu te rends compte assez rapidement que t'as des facilités, parce que tu dis... Ou alors c'est vraiment
alors,
que du travail.
J'ai pas des facilités, au contraire. Moi, je suis apnéiste qui a envie de respirer très vite.
Ok.
Donc, je suis un apnéiste qui est très vite en difficulté mentalement, justement. Par contre, je crois que j'ai une grosse faculté mentale à résister à cet effort. Voilà. Mais j'ai envie de respirer très vite par rapport à certains de mes collègues. Voilà, moi, sur mon record à 300 mètres, par exemple, j'ai envie de respirer entre 50 et 75 mètres. Voilà. Et je dois aller à 300 derrière. Tu vois.
Ça doit être tellement long.
Je suis...
Tu mets combien de temps, en fait, pour faire de 0 à 300 mètres, on va dire?
C'est une apnée de 4 minutes 30 okay. De nage. Voilà.
Donc ça veut dire, j'imagine, que tu fais quoi? Tu es au bout d'une minute, c'est ça que tu as envie de respirer à peu près? Non,
Oui, 75, 50, entre 50 et 75, donc entre 40 secondes et une minute, ouais, je commence à avoir envie de respirer. Mais après, ça se compte pas vraiment en temps, là, c'est surtout la distance. Pour te donner un ordre d'idée, pour pouvoir comparer, en apnée statique, je peux tenir 7 minutes 30 à peu près.
Okay.
Donc là, c'est vraiment le temps qui compte pour le coup. Et en apnée statique, je vais avoir envie de respirer au mieux du mieux entre 3 minutes et 3 minutes 30.
Ok.
Voilà.
Et qu'est-ce qui change alors entre l'apnée, enfin, que t'es plus de facilité en apnée statique à avoir envie de respirer, en tout cas beaucoup plus tard que par rapport à...
Bah, c'est parce que tu bouges pas. Okay. Oui, quand tu bouges pas, tu consommes moins vite ton oxygène, tu accumules moins de CO2. Enfin, tu accumules moins vite le CO2. Donc, t'as envie de respirer beaucoup plus tard.
Ok. Comment ça se passe dans... Comment dire ? En fait, à partir du moment où t'es rentré dans cette ligne compète, là, comme tu disais, d'un coup d'un seul, tu te dis « Ok, bah, je pourrais peut-être commencer à aller grappiller des titres, à faire de la compète aussi. » Tu rentres vraiment dans ce truc-là et puis tu finis championnat du monde, quoi. C'est fou, quand même.
Ouais, c'est allé assez vite. Bah, j'ai commencé à faire des compètes assez vite la première année. Et puis, en fait, j'ai progressé de compète en compète.
Tu te prends au jeu aussi ?
Ouais, je me suis pris pas mal au jeu. J'ai commencé à faire des compètes, ça me plaisait bien. J'ai fait des résultats qui n'étaient pas dégueux. En plus, à chaque compète, en général, je ramenais une médaille à la maison, donc j'étais plutôt content. Et ça m'a poussé à faire un peu toutes les compètes de la saison, quoi, qui étaient dans la région, on va dire. Parce que bon, voilà, faut comprendre qu'il y a un circuit de compétition. Hein, tout ça est très organisé. Il y a une fédération d'apnée, hein, qui est la FFESSM, qui a un circuit de compétition assez développé partout en France. Des compétitions départementales, régionales, nationales. Il y a un championnat de France à la fin de chaque année. À l'issue des championnats de France, il y a le directeur technique national de la fédération et les sélectionneurs de l'équipe de France qui, comme dans tous les sports d'ailleurs, font leur sélection du groupe France. Et donc ensuite, il y a un groupe France qui existe jusqu'au moment où on part au championnat du monde. Et là, ça devient l'équipe de France. Et donc là, il y a l'équipe de France qui part au championnat du monde. Et il y a les championnats du monde qui sont organisés, eux, par la CMAS, qui est la Confédération mondiale des activités subaquatiques, à laquelle appartient la Fédération française d'apnée, la FFESSM. Donc voilà, tout ça est très organisé, reconnu par le Comité international olympique. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus officiel et organisé, hein. Voilà, c'est fédéral et c'est tout ça est délégataire d'État. Cette fédération est délégataire d'État, donc reconnue par le ministère des Sports. Et donc c'est très organisé. Ouais. Voilà.
T'avais jamais fait de compète sportive avant dans ta vie ?
Non, j'avais pas fait de sport à haut niveau. J'ai toujours été sportif, hein, étant gamin, même ado, hein, mais j'ai jamais fait de compète à haut niveau. Non.
Tu t'es pris au jeu comme ça à l'âge entre 25 et 30 ans, quoi.
Ouais. Je me suis pris au jeu. Parce que d'un coup, je m'accomplissais dans un truc, tu vois, où j'étais super bon, ça me plaisait. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas la tenter. Donc j'ai fait des compétitions comme ça cette première année. Où voilà, j'allais de plus en plus loin à chaque fois, je ramenais des médailles et au final j'ai pu faire les championnats de France à la fin de cette année-là, parce que j'étais dans les 30 meilleurs français. Du coup j'ai fait les championnats de France, j'ai fini vice-champion de France à la brasse, en nageant 154 mètres à l'époque. Et là, du coup, à l'issue des championnats de France, le directeur technique national et les sélectionneurs de l'équipe de France sont venus me voir à la piscine et m'ont proposé d'intégrer le groupe France. Voilà, donc là par contre ça a changé. Là dans ma tête ça a changé, je rentrais dans autre chose et je me projetais à plus long terme déjà dans ce sport à partir de là. Je me dis ok, voilà, je rentre en équipe de France, je pars au championnat du monde, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus sérieux, quoi. Voilà. Et que ça soit pas simplement un loisir, voilà. Bien naïf que j'ai été, hein, parce que 5 ans plus tard, j'étais toujours pas professionnel et voilà. Hein, moi, dans ma tête, quand je partais en équipe de France d'apnée, c'était ça y est, c'est cool, je vais pouvoir vivre avec les sponsors, faire de l'apnée, c'est génial. Pas du tout. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Donc, mais en tout cas, voilà, j'ai fait cette première sélection en équipe de France en 2013. Je suis parti à Kazan au championnat du monde d'apnée. De la CMAS, donc, avec l'équipe de France, et j'ai ramené mon premier titre de champion du monde en faisant 200 mètres à la brasse, en bassin, et je signais un record du monde aussi par la même occasion. Un record du monde CMAS, donc.
Comment ça se passe dans ta tête de passer de, ok, en fait, je vais faire ça parce que, en fait, ça me fait marrer à, ok, je suis champion du monde en 2 ans de temps, quoi.
Ah bah, ça va très vite dans ma tête, ouais. Non, bah, ça a été très vite. Ça a été très vite. C'était après. Ça a été très vite, mais en même temps, rien ne s'est concrétisé tout de suite. Mmh. Tu vois, donc quelque part, j'ai toujours été dans la démarche d'essayer de développer mon réseau de partenaires, ma visibilité, etc. Donc ça a été très vite, mais ça a été très vite pour les titres, pas pour le reste.
Ouais. Voilà. Ça doit être un peu frustrant, non ? D'avoir ce truc où tu te dis, ok, en fait, je suis au top du niveau mondial, et d'un autre côté, j'arrive pas à en vivre.
Oui, oui, c'est très très frustrant, parce qu'en plus de ça, c'est un des sports les plus durs au monde, ça c'est clair. Hein. L'apnée dynamique en bassin, en tout cas, c'est différent de la profondeur, on en parlera après si tu veux, mais en tout cas, pour ce qui concerne de l'apnée dynamique, c'est clairement pour moi, avec l'apnée statique, un des sports les plus difficiles au monde. En ce sens qu'on apprend à dompter et à dépasser un réflexe de survie primaire qui est l'envie de respirer, et ça n'existe dans aucun autre sport, hein. L'alpinisme à très haute altitude, peut-être qu'ils peuvent ressentir un petit peu ce qu'on ressent nous, mais sinon ça n'existe nulle part ailleurs, et je pense que c'est une discipline qui exige une gymnastique mentale qui est très particulière et qui vraiment peut sembler à la majorité des gens comme insurmontable. Donc je pense que c'est vraiment un des sports les plus durs au monde, et c'est vrai que du coup d'avoir réussi à accumuler autant de titres, autant de records, quand t'es toujours pas rémunéré pour ce que tu fais, tu te dis merde,
t'étais chauffeur,
c'est dommage.
T'étais chauffeur la semaine et t'allais devenir champion du monde.
Et après, mais bon, je comprends, il n'y a pas de régie pub, donc c'est normal, c'est comme ça, tu vois. Après, parce que bon... En soi, je veux dire, ce qui fait vivre les sportifs, c'est uniquement les régies publicitaires et la médiatisation. Parce que sinon, quand tu réfléchis, en fait, il n'y a aucune utilité. Il n'y a aucune utilité fonctionnelle à un sportif dans une société productive. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quelqu'un qui met un ballon au fond d'un filet, quelqu'un qui court sur une piste d'athlée, ou quelqu'un qui nage en apnée dans une piscine ou en mer, ça n'a rien à voir. Il sert beaucoup moins que quelqu'un qui met des trucs en conserve, ou qu'un fraiseur tourneur, ou qu'un menuisier, ou qu'un cordonnier, ou qu'un ingénieur, ou qu'un financier. Tu vois ce que je veux dire ? On ne sert à rien. Le seul truc où on sert, c'est qu'on fait rêver les gens. Et qu'on apporte de l'espoir, et qu'on communique des valeurs intéressantes, voilà. Mais c'est tout, en fait. Sinon, on n'a aucune utilité concrète dans une société productive. Donc, c'est normal que s'il n'y a pas de régie publicitaire sur un sport, ça aura beau être un très joli sport, et très noble, et très difficile, s'il n'y a pas de régie pub, tu ne gagnes pas d'argent, hein. Donc en fait, voilà, c'est bête et méchant, mais c'est comme ça. Donc après, j'ai appris, hein. Je veux dire, j'ai appris et du coup, j'ai développé ma carrière autrement. Mais un apnéiste ne peut pas vivre de simplement de l'apnée. C'est impossible. Le seul qui, puis il y en a qui y arrivent, et j'en connais un qui y arrive d'ailleurs. Mais c'est le seul, c'est Arnaud Gérald, pour pas le citer. Qui s'est très très bien débrouillé, et d'ailleurs c'est très légitime, hein, il a fait de très belles choses. Donc lui, pour le coup, il est athlète professionnel. Mais des athlètes professionnels en apnée, c'est rarissime, je pense que ça doit être vraiment le seul, ou un des seuls, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Sinon, on est athlète sponsorisé. Voilà, on est égérie de marque, qui communique à travers nous sur des projets de communication de grande envergure, etc., mais qui ne nous rémunèrent pas uniquement pour faire de la compétition. En tant qu'athlète, quoi. Ça n'existe pas, normalement.
Qu'est-ce qui te fait envie en 2015, donc, de... C'est ça, tu mets ta carrière, entre guillemets, après tes titres, c'est ça ?
2016, ouais.
2016, pour te dire, maintenant je vais commencer à capitaliser sur tous ces titres pour commencer à gagner ma vie grâce à mon sport que je vais arrêter de faire à niveau, en tout cas en termes professionnels, quoi.
En fait, j'ai regardé tout simplement ce que faisaient mes camarades. J'ai regardé ce que faisait Guillaume Néry, j'ai regardé ce que faisait Morgan Bourkis, j'ai regardé ce que faisait Pierre Frolla. J'ai regardé ce qu'ils faisaient, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous arrêté les compétitions pour développer leur carrière, quoi, d'apnéiste pro. C'est-à-dire... faire des belles vidéos et des belles photos pour des partenaires, pour des projets de communication, faire des films même, des documentaires, écrire des bouquins,
des clips,
des clips même, effectivement. Bah oui. Guillaume a même fait un clip, ouais. C'est prêter son image à des marques, tu vois, voilà, sur des projets de communication. C'est évidemment développer une activité de conférencier en entreprise aussi, de workshop, workshop bien-être, respiration, relaxation, etc. Voilà, c'est vraiment pouvoir être multicasquette comme ça, sur une multitude d'activités, mais pas celle d'athlète apnéiste en tout cas. Ou alors la garder dans une moindre mesure, mais en tout cas, lever le pied dessus pour développer d'autres trucs, ça c'est absolument indispensable.
Mais alors, donc on en vient à comment je t'ai rencontré, c'est pourquoi à un moment donné te dire, ok, donc j'ai déjà tous ces titres, etc., et j'ai envie d'aller pousser, j'imagine, un peu plus loin la performance, en commençant par faire un record sous glace, quoi.
Alors, il y avait... Effectivement, j'ai gardé ces projets d'apnée sous glace parce que, au contraire de ce que je disais pour l'apnée au sens plus traditionnel du terme, c'est-à-dire la profondeur ou l'apnée en bassin, l'apnée sous glace est un truc qui fascine et qui marche très très bien. Donc,
dire visuellement déjà, il y a un truc fou.
Ouais. Et ça fonctionne très très bien. Donc j'ai gardé cette idée de record d'apnée sous glace, mais à la base j'y allais pas forcément pour ça. C'était vraiment parce que j'ai mélangé mon intérêt pour l'eau froide à l'intérêt pour l'apnée, et où je me suis dit tiens, pourquoi pas tenter des records d'apnée en eau très froide sous glace, quoi. Vraiment la démarche à la base c'était celle-là.
Okay. Pourquoi
et je me suis rendu compte que pour le coup cette activité d'athlète était compatible avec le fait de se professionnaliser dans l'apnée, parce que on est sur quelque chose d'ultra marginal, de très impressionnant, très spectaculaire, et qu'il y avait un vrai potentiel de communication derrière qui intéressait beaucoup les marques et les médias, quoi.
Donc tu arrives à mêler à la fois le dépassement de soi, et en fait ton record finalement il n'est pas vraiment, c'est pas un record officiel entre guillemets.
Si, tout à fait. Si. C'est okay. Un record officiel qui est homologué par l'ACMAS, donc reconnu par le CIO.
Okay.
Mais ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que par exemple, j'ai pas été rémunéré pour mon record.
Ok.
Encore une fois.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire que c'est tout ce qui va venir après sur lesquels je vais capitaliser, c'est-à-dire faire un maximum de conférences, proposer mon image à des marques qui vont vouloir communiquer là-dessus, etc. Faire des visuels. Je vais capitaliser dessus en fait, mais pour le record en lui-même, il y avait aucune rémunération. Tu vois.
Ok. Pourquoi décider d'aller se mettre sous la flotte comme ça glacée? Qu'est-ce qui se passe sportivement, je veux dire. Après, pour le coup, toi, en tant qu'apnéiste.
Y a un challenge lié à la prise de risque, évidemment. Et puis il y a aussi moi un truc qui m'intéressait, c'était de voir où est-ce que je peux emmener mon corps avec et mon mental avec une adaptation progressive et raisonnée. Voilà. Jusqu'où je peux amener mon corps en m'adaptant au milieu progressivement et en m'entraînant en fait. Et il y avait aussi vraiment cet intérêt là. Okay. À la base, j'ai découvert la nage en eau froide en 2016-2017 grâce à mon camarade Alex Voyer, qui est un des meilleurs photographes underwater actuels en France, et qui lui faisait déjà de la nage en eau froide depuis très longtemps. Donc là on parle de nage en eau froide, hein, on parle pas d'apnée.
Ouais.
La nage hivernale, qui est un truc très connu dans les pays nordiques, tu vois, mais qui fait de plus en plus le buzz dans nos contrées.
Oui, c'est le fameux Wim Hof, c'est ça?
Le fameux Wim Hof, exactement, avec sa méthode Wim Hof, hein, sur laquelle, je pratique pas du tout.
Ouais.
Mais oui, il a démocratisé beaucoup tout ça. Du coup, ça se développe très très fort aux États-Unis. Et ça y est, ça commence à arriver aussi chez nous. Voilà, on découvre les bienfaits, les vertus de l'eau froide et des immersions en eau glacée. Donc, ça commence vraiment à faire pas mal le buzz. Donc moi j'ai découvert avant tout le fait de pouvoir se mettre dans l'eau glacée et de nager en eau glacée. Et puis je me suis dit je suis pas très très frileux, c'est un truc qui m'intéresse. Pourquoi pas allier les deux, mon intérêt pour l'apnée et mon intérêt pour l'eau froide du coup. Et donc, je me suis mis dans la tête de battre ce record du monde d'apnée en 2017 avec ma combinaison et ma monopalme, qui était mon premier record d'apnée sous glace. J'ai nagé 175 mètres, qui était un premier record, donc CMAS aussi, hein,
wow,
homologué par la CMAS. Voilà, et puis...
175 mètres, c'est l'équivalent de quasiment 4... 4 longueurs de piscine olympique, quoi, pour les gens sous la
feuille. Exactement. Exactement.
Sous le gelé, quoi.
Alors, à savoir que, par exemple, je vais à 300, à titre de comparaison, oui, en bassin, normalement.
Ouais.
Et que là, voilà, l'eau glacée fait qu'on sort beaucoup plus tôt. Donc, à 175 mètres, j'avais fait ce premier record. Et du coup, bah, 3 ans plus tard, 3-4 ans plus tard, 4 ans plus tard, je me suis mis à ce projet de double tentative de record à la brasse, cette fois. L'année dernière avec ma combi et cette année sans combinaison. Donc,
et alors pourquoi voilà enlever la combi? Pour te dire justement de rajouter un... C'est un peu comme les alpinistes qui veulent toujours aller pas plus haut, ce truc d'aller plus haut, d'avoir de moins en moins d'équipement, de...
Ouais, c'est un peu... Oui, c'est un peu ça. C'est enfin, le challenge ultime dans de l'eau glacée, c'est d'y aller en slip, quoi. Sinon, c'est pas drôle. Bah oui. C'est-à-dire que après les combinaisons, voilà, t'en as de 2 mm, de 5 mm, de 7 mm, de 10 mm, machin. Pff, voilà, c'est de la triche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça. C'est, bon, là, au moins, c'était dans la pureté de l'exercice, tu vois. Voilà, il y a no cheats. No cheats, c'est... voilà, j'ai pas de combinaison dont on sait pas quelle est l'épaisseur sur moi. On pourrait se dire, ouais, il y a une combinaison de 8 mm, il sent rien, machin. Non, là, au moins... Je fais taire tous les rageux. Il n'y a pas de tous les haters. Là, il n'y a pas de combinaison. C'est pur et dur, quoi. Voilà. Et donc, oui, bah, c'était ça. Puis, c'était aussi l'aboutissement de ce projet, qui était un projet d'acclimatation au froid aussi, de réussir à, voilà, à me dépasser mentalement, physiologiquement, physiquement dans cet exercice. Et puis qui était un beau projet aussi, je trouve, parce que c'est vraiment mettre son corps à l'épreuve, faire rêver les gens aussi, bien sûr, par rapport à cette performance, montrer aux gens que c'est possible, voilà. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est impossible, donc voilà, c'est possible.
Ah.
Et puis surtout faire comprendre aux gens que c'est possible. Enfin, je veux dire qu'il y a sûrement plein de mecs qui pourraient réussir à faire ce que j'ai fait, mais qu'il suffit d'avoir 2 ans pour se préparer et de s'investir dedans à 100% mentalement et physiquement. Mais si on a ces capacités, beaucoup de gens peuvent réussir à faire ce que j'ai fait, je pense.
Ok, si tu le dis, je te crois. Hein.
Je pense.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler?
Bah, la différence entre l'apnée en mer et en piscine, peut-être, ouais, si tu veux, ouais. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a. Je disais oui que l'apnée en bassin est sûrement un des sports les plus durs au monde. Je parlais de l'effort, effectivement, la gymnastique mentale qu'on met en place pour réussir à dépasser le réflexe d'envie de respirer, en fait, hein. Et que ça faisait de l'apnée dynamique en bassin un des sports les plus durs au monde. En mer, en profondeur, la gestion mentale de l'effort est très très différente. On va avoir beaucoup moins envie de respirer, en réalité.
C'est
beaucoup plus de kiff.
Okay.
Donc c'est beaucoup plus kiffant, moi je trouve, en tout cas. Après, quand on commence à descendre très profond, il y a aussi un engagement, il y a aussi une prise de risque. Non, on n'est pas juste sous la surface, on peut pas remonter quand on veut. Il faut vraiment travailler sur sa capacité de relâchement malgré la prise de risque.
Il faut gérer la pression aussi,
malgré
j'imagine.
Malgré la compression, bien oui, sûr, qui augmente. Réussir à bien travailler sa compensation pour pouvoir descendre tout au fond sans se blesser les oreilles. Et après, au retour, il y a un effort musculaire assez conséquent à faire à la remontée. Parce que quand on descend, on se laisse couler, en fait, hein. La poussée d'Archimède ne s'exerce que sur les 20-25 premiers mètres, après on coule. Donc c'est du statique, en fait, pour descendre, hein. On est relâché, on bouge pas et on coule. Par contre, au fond, après, il faut s'arracher du fond pour remonter. Donc là, ça demande un effort assez conséquent. Donc il y a un effort musculaire quand même assez intense. Et puis du coup, l'envie de respirer qui commence à arriver à la remontée. Voilà. Mais on a envie de respirer beaucoup moins longtemps qu'en bassin. Voilà. Et l'effort va plutôt être sur la capacité de relâchement malgré la prise de risque et malgré la compression qui augmente. Voilà. Mais moi je trouve que c'est les vacances.
Oui, c'est ça. J'allais dire, tu descends à combien pour les vacances? Toi qui n'es pas un spécial, c'est pas ton.
Moi je descends au plus profond, vraiment quand je suis au top, acclimaté pour la profondeur. Actuellement, je peux descendre entre 65 et 70 mètres. Après, si je veux descendre plus profond, il faudrait vraiment que je m'y mette sérieusement. Et que j'acclimate notamment mes poumons à la compression. Je suis absolument pas limité par l'envie de respirer du coup, parce que c'est pas du tout pareil. Oui. On a moins envie de respirer en profondeur. Je suis pas du tout limité par l'apnée, donc par la technique non plus. Je suis limité vraiment par. Je suis pas limité non plus par la compensation des oreilles. Je suis vraiment limité par l'acclimatation de mes poumons à la compression. Quand on descend, en fait, on met nos poumons à rude épreuve, qui sont soumis à voilà, la paroi alvéolaire des poumons est soumise à une dépression en fait à partir d'une certaine profondeur, et cette dépression, elle peut générer des petits œdèmes pulmonaires ou même des gros si on fait n'importe quoi, et il vaut mieux éviter ça. Et en fait, pour éviter ça, du coup, ça demande beaucoup d'acclimatation et ça demande une progression dans la durée. Que j'ai pas encore vraiment faite.
Okay.
Et qui chez moi en plus va prendre beaucoup de temps, je pense, peut-être plus qu'à d'autres. Donc
c'est pas forcément un truc vers lequel t'as envie d'aller.
Si, j'adore, mais il me faudrait du temps.
Okay.
Il me faudrait du temps.
Et on est bien d'accord que la différence, quand tu dis l'envie de respirer, elle arrive beaucoup plus tard quand t'es en profondeur, c'est parce qu'en fait t'es statique tout simplement, t'es pas en train de...
Alors déjà parce que t'es statique quand tu descends, et aussi parce que la compression va venir comprimer en fait l'oxygène dans le sang, et va venir dissoudre en quelque sorte l'oxygène dans le sang. Et en fait, du coup, on est entre guillemets en hyperoxygénation au fond.
Okay.
Même si c'est très relatif, parce qu'en fait, on n'a pas plus d'oxygène, c'est juste qu'il est plus dissous.
Oui.
Et donc, quand on remonte, par contre, du coup, que ça se décomprime, et ben là, l'envie de respirer apparaît.
Okay.
Et donc, voilà. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, moi, je trouve que l'apnée en profondeur reste plus simple mentalement à gérer que l'apnée en bassin. Alors tu vois, par exemple, alors après voilà, ils ont leur challenge aussi, hein, attention, la compensation des oreilles, oui, la compression, tout ça est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, et la prise de risque surtout, hein, qui est évidente.
Oui, tu peux pas remonter évidemment quand tu veux, quoi.
Alors par exemple, sous glace, je cumule toutes les difficultés.
Oui, j'allais dire, tu peux pas remonter sous glace.
Je peux pas remonter non plus, et en plus de ça, j'ai envie de respirer très tôt. Et beaucoup plus tôt qu'en bassin d'ailleurs. J'ai envie de respirer à 20 mètres, tu vois, à la brasse, ou en bassin, normalement, j'ai envie de respirer entre 50 et 75 mètres, tu vois. Donc l'envie de respirer à cause de l'eau glacée arrive très très vite. Et en plus, la prise de risque est pareil, est évidente, quoi. Elle oui. existe, quoi.
Si t'as envie de respirer, t'es mal barré. En fait, si t'as besoin de respirer.
Ouais, envie de respirer, ça arrive très vite. Mais oui, si je perds connaissance à un moment, ou si je sens que je suis vraiment au bout, je peux pas remonter. En tout cas, je peux pas remonter là où je veux. J'ai des issues de secours, une tous les 20 mètres, mais quand je suis entre les deux, quoi. Au-dessus de moi, il y a 50 cm de glace.
Ouais. Wow. Mais t'es entouré quand même,
Alors, il y a un système de sécurité, bien sûr. Il y a des apnéistes de sécurité qui me suivent, qui se relaient d'ailleurs à chaque issue de secours. Il y a un apnéiste de sécurité qui prend le relais du précédent, voilà, et qui me suit, prêt à intervenir en cas de problème.
Merci pour ça en tout cas. Je mettrai tous les liens, notamment pour aller voir ton Insta par exemple, si vous voulez aller voir des images. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as la sensation d'avoir ou d'avoir eu du succès ? C'est compliqué cette question. Hein.
Ouais, c'est compliqué. Après, objectivement, oui, ça m'est déjà arrivé, en toute objectivité. Mais surtout dans le milieu de la plongée, quoi, ou de l'apnée. Après, quand je marche dans la rue, on me reconnaît pas, quoi, tu vois. Donc, pas de la notoriété, pas. Tu vois, c'est pas. C'est vraiment dans le monde de la. Dans le monde de l'apnée et de la plongée, ouais. Voilà, ouais.
Parce que t'es pas obligé d'avoir du succès pour. Enfin, d'avoir de la notoriété pour avoir du succès, pardon.
Alors, du succès dans ce que je fais, même au niveau personnel, oui, j'en ai, oui. Mm. Là, oui, moi, je suis très content de ce que j'ai fait. J'estime, par exemple, que ce projet de double tentative de record qui vient de s'achever, c'est un succès. Ouais. C'est clairement un succès. Oui, le sentiment de succès, il existe. Donc effectivement, ta question n'est pas dans le sens de succès auprès du public, mais succès personnel, oui, bien sûr. Là, il y a un vrai succès, en tout cas une vraie réussite dans les projets que j'ai menés jusqu'à maintenant, dans les projets sportifs, en tout cas, ouais. Ça, c'est plutôt... concrétisé par des succès, ouais.
Ok, t'en es fier?
Ouais, franchement, puis là, celui que j'ai fait là, ouais, c'est vraiment celui dont je suis le plus fier, ouais. Sans combinaison, dans de l'eau à 1 degré, franchement, si je disais tout à l'heure que n'importe qui est capable de le faire, en théorie,
oui.
Mais je serais curieux de voir s'il y en a qui y arrivent.
Moi, je te voyais en slip, franchement, dans la flotte, j'étais dans mon canapé, je me disais, je suis vraiment mieux là où je suis. Hein.
Alors, c'est un record qui sautera sûrement un jour ou l'autre. Hein. Y a un Russe ou un Finlandais qui va me battre, hein, c'est sûr. Mais il ne doit pas y en avoir beaucoup, quoi, qui arrivent à aller jusque-là. Même si, en théorie, je pense que beaucoup de gens peuvent y arriver. Mais ça demande un tel effort mental, un tel investissement que, franchement, c'est du taf, quoi. C'est vraiment du taf.
Merci beaucoup, Arthur.
Merci.
C'était trop, trop top.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.